أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الرسول لعلكم ترحمون
ان آیات کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے.
La traduction de ces versets est comme suit. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez aux messagers afin que miséricorde vous soit faite. Ces versets du Saint-Coran évoquent une promesse divine. Ici, Allah nous promet une faveur si nous respectons certaines conditions. Et cette faveur, c'est le califat. Suite à cette faveur qu'est le califat, Allah vous accordera la force et il transformera votre peur en paix. Ainsi, il s'agit là d'une promesse et non d'une prophétie. Allah n'affirme pas qu'il accordera certainement cette faveur. Certes, il accordera cette faveur lorsqu'on va respecter toutes les conditions qui sont liées à cette promesse. L'adoration de Dieu et se détourner entièrement du polythéisme, du shirk, font partie des conditions qui sont stipulées ici. Si l'on n'est pas en train d'adorer Dieu, si l'on ne respecte pas les exigences de cette adoration, et si l'on n'évite pas entièrement le polythéisme comme le souhaite Allah l'exalté, eh bien, l'on ne pourra pas profiter entièrement de cette promesse qui a été faite dans ces versets. Même si le califat est présent, ceux qui ne respectent pas ces conditions ne pourront pas en profiter. Le Saint-Coran explique que le califat, reposant sur les préceptes du prophétat, sera établi durant les derniers temps. Les hadiths aussi prédisent aussi que l'avènement de ce califat reposant sur les préceptes du prophétat sera permanent. Le Messie premier d'Islam nous a expliqué clairement que le califat sera établi après lui et que ce califat sera permanent. Or, dans ce verset, Allah explique aussi aux musulmans que pour profiter de cette promesse et pour profiter des faveurs qui sont liées à cette promesse, ils vont devoir se réformer. Il ne suffira pas de se proclamer musulman pour mériter les faveurs du califat. Ainsi, Allah prodigue ce conseil aux musulmans. Ils doivent accomplir la salat et ils doivent respecter ses exigences et se prémunir du shirk afin de profiter de cette faveur. Ils vont devoir aussi payer la zakat et obéir au saint prophète. C'est là qu'ils pourront attirer la miséricorde divine. Dans le cadre de l'obéissance, il ne faut pas oublier cette injonction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré « Celui qui obéit à l'émir que j'ai nommé m'obéit, et celui qui désobéit à mon émir me désobéit. » L'émir le plus important nommé par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et le calife. L'on comprend donc qu'il est essentiel d'obéir au calife tout comme l'on doit obéissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, il ne s'agit pas ici du califat établi de force par l'aide des maîtres temporels. Il s'agit du califat établi selon les préceptes du prophète. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare ouvertement que ce califat sera établi après l'avènement du Messie promis. Ce califat sera établi après le Messie promis, car il sera le Khatmul Khulafa. Ce califat ne mènera pas des guerres. Ce califat ne va pas commettre des exactions. Ce califat va enjoindre le respect de la salat, va enjoindre le paiement de la zakat et va aussi enjoindre les sacrifices financiers afin de favoriser la diffusion du message de la foi et afin de combler les besoins d'autrui. Ce système existe uniquement au sein de la Jamaat Ahmadiyya. L'obéissance au saint prophète Mohammed lui vise à engendrer l'unité, et ceci est impossible sans le califat. Les autres musulmans accomplissent sans nul doute la salah. Or, en raison du manque d'unité, leurs cœurs sont divisés. En dépit d'appartenir à la même obédience, ils sèment la division pour des questions mineures. Ces jours-ci, les ulémas font aussi de la politique au Pakistan afin de protéger leur chair et afin d'atteindre leur objectif. Et ces ulémas s'entre-déchirent, et telle est la situation de ceux qui les suivent. Quelque temps de cela, il y avait au Pakistan des manifestations contre l'État. Par la suite, les deux groupes d'ulémas étaient à couteau tiré. L'un de ces groupes avait lancé le slogan « Labbaik ya Rasulullah » et tenté d'atteindre ses objectifs et voulait se faire passer pour le leader. L'autre tentait de redorer son blason au nom de la Khatmun Nubuwa. Et les chaînes pakistanaises ont relayé tout ce feuilleton dans le monde entier. En dépit de cela, leurs suivants n'ont pas saisi qui ils étaient en train de suivre dans la réalité. Ces gens-là pourront-ils renforcer la position des populations musulmanes? Pourront-ils les guider sur le droit chemin? Certainement non, car ces leaders sont corrompus. Et en accord au hadith du saint prophète Mohammed, les ulémas de cette époque seront les pires créatures. Les musulmans paient la zakat, mais on ignore comment elle est dépensée. L'État donne l'assurance qu'elle utilise cette zakat pour aider les pauvres. Or, des millions sont détournés des fonds de la zakat. Voilà ce que nous disent les médias. Il n'est même pas question de la diffusion du message de l'islam. Ces États établis au nom de l'islam, ces États qui possèdent des pétres de l'or, n'entreprennent rien pour diffuser le message de l'islam. Seule la Jamaat Ahmadiyya est en train d'accomplir cette tâche en consentant à des sacrifices financiers. Ce système sera efficace uniquement en présence du califat. Certains ulémas et des personnes sensées évoquent la nécessité du califat. Mais quand on les invite à accepter le califat établi par Dieu, ils refusent de le faire. Voire, ils sont davantage hostiles. On a vu un exemple de cette hostilité deux jours auparavant à Sialkot. Il y a eu cet incident concernant une de nos mosquées et la maison qui est annexée. Les mollahs et quelques centaines de leurs suppôts, avec l'aide, ou plus précisément sous l'égide de la police ou des autorités, ont accompli une œuvre monumentale. Ils ont accompli une attaque surprise et nocturne, selon eux. Ils ont accompli cette œuvre et cette attaque afin de sauver l'islam, selon eux. La police avait d'ailleurs scellé cette maison quelques jours auparavant, sans aucune raison. Elle n'avait aucune raison de sceller cette maison. Personne n'y résidait d'ailleurs. Les émeutiers ont saccagé cette maison et cette mosquée sous la direction de la police. Cette maison ainsi que cette mosquée existent depuis plus de 100 ans, avant même la création de l'État du Pakistan. Personne ne pouvait accuser les Ahmadis d'avoir construit cette mosquée aujourd'hui et qu'ils étaient contraints de détruire son minaret et sa coupole. Ainsi donc, ces gens débordent d'hostilité et ils annoncent à présent qu'ils vont s'attaquer à d'autres mosquées et qu'ils vont détruire d'autres mosquées Ahmadis. Ce sont là les déclarations d'un certain Hafiz ou d'un Qari appartenant à une partie politique. Il se proclame Hufaz, mais il ne possède aucune connaissance du Saint-Coran. D'ailleurs, tel est leur destin suite à leur hostilité à l'encontre du Khatamul Khulafa et du juge juste suscité par Allah. Quoi qu'il récite des versets du Saint-Coran, il n'en possède aucune connaissance. Ils ne peuvent comprendre les préceptes du Saint-Coran. Et c'est là un autre châtiment de la part de Dieu. Ils ne peuvent comprendre ces préceptes du Saint-Coran. Or, ils sont très éclairés quand il s'agit de fomenter des troubles. Ils peuvent en fomenter autant qu'on le souhaite, et pour ce faire, ils ont l'imagination très fertile. En tout cas, nous ne sommes pas à leur hauteur dans ce domaine. Ceci est leur état d'esprit. D'ailleurs, ils se conspuent les uns les autres dans leur mosquée. Ils ourdissent dans leur mosquée des complots et ils profanent ainsi la sainteté de leur lieu de culte. Et ils profanent aussi la sainteté de nos mosquées qui ont été bâties uniquement pour l'adoration d'Allah. Ils profanent la sainteté de ces mosquées en les scellant et en s'attaquant à elles. Ceci est le résultat du fait qu'ils préfèrent leur intérêt personnel à la foi. Tant qu'ils n'accepteront pas le califat établi en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed, ils ne cesseront de commettre ces infamies et l'on ne pourra espérer aucun acte de bienveillance de leur part. Il existe certes d'honnêtes gens, à l'instar de cette femme, qui, dans l'hémicycle du Sénat du Pakistan, a condamné cet acte. Attendons voir quel sort les mollahs et les politiciens cupides réserveront à cette pauvre femme. Généralement, ils harcèlent tellement ces nobles gens qu'ils sont contraints d'abandonner la politique ou de s'excuser. Pour ce qui est de nos sentiments, ils ont détruit certes un monument historique datant de l'époque du Messie premier alayhi salam. D'ailleurs, l'État a saisi ces bâtiments. Face à cette situation, notre réponse a toujours été la même et sera toujours la même, à savoir « Inna ma ashku bathi wa husni ilallah ». C'est-à-dire, je me plains de mon affliction et de ma douleur uniquement à Allah l'exalté. Certes, nous avons un lien sentimental avec ces bâtiments. Or, la protection d'édifices n'est pas uniquement le seul moyen pour nous d'exprimer notre lien avec le Messie premier, l'Islam. C'est en suivant ces enseignements et en se liant au califat, tout en respectant les conditions fixées par Dieu, pour profiter des faveurs du califat que l'on pourra exprimer notre attachement au Messie promis, alayhi salam. C'est aussi en rehaussant le niveau de notre adoration, c'est aussi en rehaussant le niveau de notre respect des préceptes divins et de notre obéissance. Ainsi donc, nous allons devoir nous évertuer en ce sens. Quelqu'un demanda au Messie promis l'Islam quel était le but de l'avènement d'un calife. La réponse offerte par le Messie promis l'Islam mérite d'être gravée dans nos mémoires. Le Messie promis l'Islam répondit « La réforme, tel est le but de son avènement. » Il expliqua ensuite « Adam est le père de notre lignée humaine. Après un laps de temps important, la conduite de l'humanité s'est détériorée. En oubliant son objectif principal et l'objectif de l'écriture divine, l'humanité s'écarta du droit chemin. Sur ce, Allah, de par sa grâce, suscita un messager afin de guider le monde et afin de l'extirper des bas-fonds de l'égarement. La gloire divine s'est manifestée et telle une lampe, la lumière de la perception divine s'est de nouveau rallumée sur terre. Telle est la sunna de Dieu depuis l'époque d'Adam jusqu'au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Telle a été la sunna de Dieu depuis Adam jusqu'au saint prophète Mohammed bénisse lui. Ainsi, lorsqu'on oublie après un certain temps les enseignements du prophète d'antan, et lorsqu'on perd la lumière de la droiture et de la foi, et quand le monde est empêtré dans l'égarement et le péché, lorsque le monde est entouré de toutes parts par les ténèbres, l'attribut d'Allah entre en action. Par le truchement d'un grand personnage, Allah rétablit sur terre son nom, son unicité, ainsi que les excellences morales, prouvant ainsi son existence grâce à des milliers de signes. Ainsi, il rétablit de nouveau sur terre l'irfan, la perception divine, ainsi que la taqwa qui était naguère perdue. Les musulmans ainsi que les non-musulmans ont perdu la foi et la taqwa. C'est pour cette raison qu'Allah a suscité le Khatmul Khulafa en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi wa sallam ajoute une révolution spectaculaire a ensuite lieu et notre communauté a été établie conformément à cette sunna. Cette dernière phrase mérite qu'on s'y attarde. Ainsi, la Jamaat Ahmadiyya a été établie afin de prouver l'existence de Dieu, afin de rétablir de nouveau l'unicité divine, ainsi que les excellences morales. La conduite de la majorité des musulmans est désastreuse. Ces musulmans s'adonnent au culte des morts et sont ainsi coupables de polythéisme et d'innovation. Ils admettent aujourd'hui que les musulmans sombrent dans la débauche et dans la dépravation. Ils écrivent des éditoriaux à ce propos. Or, tout comme je l'ai dit, ils ne sont pas prêts à accepter celui qui est venu en s'étant asservi au saint prophète Mohammed peace be upon him, celui qu'Allah a suscité afin de les guider et afin de les faire sortir des gouffres de l'égarement. Ils s'adonnent ainsi à des actes de polythéisme secret. Il n'existe pas en eux une once d'excellence morale. Or, la dernière phrase du Messie promis l'Islam doit constamment nous éclairer, notamment que cette communauté a été établie en accord à cette ancienne sunna de Dieu. Lorsque la débauche, lorsque la transgression, lorsque les troubles sévissent en ce monde, quand la moralité disparaît et quand l'unicité divine est oubliée, lorsque le shirk se répand, eh bien, Allah suscite son bien-aimé et Allah, par l'entremise de ce bien-aimé, renouvelle la foi. Ainsi donc, si après avoir accepté le Messie premier, l'Islam, nous ne nous réformons pas, eh bien, notre situation sera des plus inquiétantes. Nous devons accomplir constamment notre analyse de conscience. Sommes-nous en train d'accomplir les œuvres qu'Allah a liées aux faveurs découlant du califat? Est-ce que nous sommes en train d'accomplir des œuvres qu'Allah a liées aux faveurs découlant du califat? Quelle est la norme fixée pour ces œuvres? Et quelle est la norme de nos actes d'adoration? Nos actes et nos paroles sont-ils exempts de tout polythéisme? Quelle est la norme de nos sacrifices financiers? Et quelle est la norme de notre obéissance? Sommes-nous à la hauteur des attentes d'Allah et de son prophète à notre égard? À cette époque, sommes-nous en train d'essayer d'atteindre l'excellence que le Messie premier l'Islam souhaitait voir parmi les membres de sa communauté? Dans un hadith, l'on retrouve l'importance de l'adoration et des salats. Abu Huraira, radhiyallahu anhu, rapporte que le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « La première chose dont l'homme devra rendre des comptes est la salat au jour de la résurrection. S'il passe cette épreuve, il réussira et il atteindra le salut. » S'il échoue dans ce domaine, eh bien, il sera humilié et il sera du nombre des perdants. S'il y a des manquements dans ses prières obligatoires, Allah compensera ses prières obligatoires par ses prières nawafil. Et de même, toutes ces autres actions seront-elles jugées? Ainsi donc, telle est l'importance des salats. Ces jours-ci, l'effervescence du mois du Ramadan encourage tout le monde à se consacrer aux prières, aux salats et à visiter les mosquées. Or, cela ne doit pas être spécifique qu'au mois de Ramadan. Allah n'exigera pas uniquement des comptes au sujet des prières faites durant ce mois. Toutes les prières de la vie seront analysées. Il faut donc s'en soucier grandement. Allah a répandu de grandes faveurs sur l'homme. Il peut y avoir des manquements dans ses prières obligatoires en raison des faiblesses humaines. En effet, la nature humaine est ambivalente. Parfois, l'homme ne peut pas s'acquitter de ses devoirs. Pour pallier cela, Allah l'Exalté déclare qu'il compensera les manquements des prières obligatoires par les prières nawafil accomplies durant sa vie. Jabir radhiyallahu anhu rapporte que le saint prophète Mohammed peace be upon him a déclaré être négligent dans l'observation de la salat rapproche l'homme du polythéisme et de l'incroyance. Il s'agit de manquements très graves. Le polythéisme est une transgression des plus déplaisantes aux yeux d'Allah. Allah ne le pardonnera jamais. Peut-on bénéficier de cette faveur d'Allah qu'est le califat en commettant sa transgression? Certainement non. En expliquant la teneur de la sola, sa grandeur d'esprit et son essence, le Messie promis alayhi salam déclare: d'aucuns se rendent aux mosquées, ils prient et ils respectent également les autres piliers de l'islam. Cependant, ils ne sont pas récipiendaires de la divine. Et on ne peut pas voir des changements significatifs dans leurs mœurs et dans leurs habitudes. Un changement drastique doit se manifester dans les habitudes et mœurs des personnes qui prient. Cela laisse donc présager que leurs actes d'adoration ne sont que routiniers et sont dénués d'une quelconque réalité. Le respect des commandements divins est tel une graine qui influe à la fois sur l'âme et sur le corps. Cette semence doit avoir un effet sur l'âme. Une graine placée en terre pousse et s'épanouit. De même, la sola doit influer sur notre âme, sur notre corps et nos mœurs. Le Messie promet l'Islam ajoute: lorsqu'un paysan irrigue son champ et l'ensemence au prix de grands efforts, et qu'après 2 mois, il n'y a aucune germination, il va conclure que ses semences n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire, si ses graines ne germent pas, eh bien, cela veut dire que ses semences ne sont pas de bonne qualité. Il en est de même des ibadas, dit le Messie promis alayhi salam. J'ai expliqué ici le terme « germination » en langue ourdou, car certains traducteurs disent que j'utilise des termes dont ils ignorent le sens. Le Messie promis alayhi salam déclare: il en est de même pour l'adoration. Si une personne considère que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'associé et que cette personne prie, jeûne et essaye en apparence de son mieux de suivre les commandements divins, mais que cette personne ne jouit pas d'une aide particulière de la part d'Allah, il faudra conclure que la graine qu'il a semée est de mauvaise qualité. Ainsi, nous devons toujours garder à l'esprit ce point. Il faut que l'on reconnaisse l'amour divin à travers l'amélioration de nos adorations, à travers l'amélioration de nos mœurs. Si nous constatons une amélioration, cela signifie que nos prières sont efficaces et que nous sommes en train de nous rapprocher de Dieu. Si notre situation ne s'améliore pas, cela signifie que nos prières sont vaines et que nous ne nous sommes pas rapprochés de Dieu. Le Messie promis alayhi salam ajoute: qu'est-ce la sola? C'est une supplication que l'on adresse à Dieu avec humilité tout en proclamant sa gloire, en chantant ses louanges et en exaltant sa sainteté et en implorant son pardon et en envoyant des salutations et des grâces sur le saint prophète. Au cours de la sola, ne vous limitez pas aux prières prescrites en langue arabe uniquement. Si l'arabe n'est pas votre langue maternelle, eh bien, vous ne devez pas vous contenter uniquement des prières en langue arabe, car cela ne va pas faire naître le ressenti nécessaire qui découle de ces supplications. Les prières, les solats de ces personnes et leur repentir ne sont que routiniers, loin de la réalité. Mis à part la récitation des versets du Saint-Coran, qui sont la parole de Dieu, et les prières transmises de la tradition du Saint-Prophète, en sus de ces prières, dit le Messie promis alayhi salam, il faudra réciter d'autres prières. Il faudra réciter les supplications du Saint-Prophète ainsi que celles du Saint-Coran. Il faudra les comprendre et les mémoriser. Il faudra aussi faire d'autres prières dans sa langue. D'aucuns font leur propre supplication et mémorisent d'autres supplications. Le Messie promis alayhi salam ajoute: en sus de ces prières prescrites, faites aussi vos propres supplications lors de la sola, afin que ces prières, cette humilité, aient de l'effet sur vos cœurs. Le Messie promis alayhi salam déclare: la sola est tellement puissante qu'à travers elle, les cieux s'inclinent vers l'homme. C'est-à-dire qu'Allah l'exalté se rapproche de l'homme. Celui qui respecte les exigences de la sola ressent qu'il est mort, que son âme fond sur le seuil de Dieu. Une maison où la prière est offerte de cette façon ne sera jamais détruite, dit le Messie promis le salam. Selon un hadith, si la salat avait été prescrite au peuple de Noé, ce peuple n'aurait pas été détruit. Le hajj est obligatoire, mais avec certaines conditions. Le hajj n'est pas obligatoire pour tout le monde. Il en est de même du jeûne. Les malades et les voyageurs sont exemptés du jeûne. Les voyageurs peuvent remplacer les jeûnes manqués, mais il y a aussi certains malades qui n'arrivent pas à jeûner du tout. Ainsi donc, certaines conditions s'appliquent au jeûne. La zakat est également sujette à certaines conditions. Ceux qui ont des économies doivent payer la zakat. Cependant, l'ordre concernant la salat est inconditionnel. Toutes les autres obligations doivent être respectées une fois par an, mais la salat est prescrite 5 fois par jour. Tant que la salat n'est pas observée en accord à toutes ces exigences, elle ne portera pas les bénédictions qui lui sont attachées. Et une telle allégeance, sans respecter ces conditions, est futile. Le Messie promis l'Islam déclare que tant que la salat ne sera pas observée en respectant ces conditions, nous ne pourrons pas obtenir les bénédictions qui en découlent. Lui prêter allégeance non plus ne servira à rien. Tel est le niveau que nous devons tenter d'atteindre. Ensuite, Allah nous demande de nous préserver du polythéisme. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam redoutait que le shirk se répande au sein de sa umma. Dans un hadith, Obada bin Nasi rapporte les propos de Shaddad bin Aws. Il dit que Shaddad bin Aws pleurait. On lui demanda « Pourquoi pleurez-vous ? » Il répondit « Je me suis souvenu d'une parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Et cela m'a fait pleurer. J'ai entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclarer « Je redoute que le shirk et les désirs secrets se répandent au sein de ma umma. » Le rapporteur a demandé au prophète d'Allah « Est-ce que vos suivants vont s'adonner au shirk après vous ?» Le saint prophète lui répondit « Oui. » Même si mes suivants n'adoreront pas le soleil et la lune, ou les idoles, ou la pierre, cependant, ils souffriront de l'ostentation de leurs actes, et ils seront victimes de leurs désirs cachés. L'un d'entre eux entamera le jour en jeûnant, mais lorsqu'il désirera quelque chose, il mettra fin à son jeûne pour satisfaire son désir. Il ne va pas se soucier de son jeûne. Il va jeûner en apparence. La dernière fois, j'ai raconté cette histoire de ce jeune qui jeûnait pour ses parents et qui, dans l'après-midi, partait manger quelque chose. Et le soir, il revenait rompre son jeûne avec les membres de sa famille, comme s'il avait jeûné pendant toute la journée. Telle est la situation de certaines personnes. Et un journal d'ici a publié un article à ce sujet, comme je l'avais cité la semaine dernière. Ainsi donc, cette situation est très inquiétante. Si nous accomplissons notre introspection en profondeur, nous constaterons plusieurs exemples de shirk secret. Parfois, il nous arrive de manquer nos salats en raison de l'assouvissement de nos désirs. Et parfois, nos jeûnes sont affectés ou manqués en raison des prétextes mondains. Un jeune homme m'informa qu'il tenait une pizzeria et qu'il était contraint de goûter les pizzas lorsqu'il les préparait. C'est pour cette raison qu'il ne jeûnait pas ou qu'il lui arrivait de manquer certains de ses jeûnes. En entendant pareille histoire, l'on ne peut que réciter « Inna lillah ». Étant Ahmadi, comment pouvons-nous agir de la sorte? Je ne sais pas si en disant cela, il avait éprouvé de la gêne, mais en écoutant pareil agissement, moi j'éprouve de la gêne et de l'embarras. nous proclamons que nous voulons être récipiendaires des grâces divines, mais nous nous éloignons de ces commandements. Si nous nous éloignons de ces commandements, cette revendication sera mensongère. Le Messie premier l'Islam déclare, en citant une partie d'un verset, qu'Allah affirme dans le Saint-Coran, « وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ». Il a cité une partie de ce verset, « وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ». C'est-à-dire que tous les péchés seront pardonnés sauf le shirk. Éloignez-vous donc du polythéisme et considérez-le comme l'arbre défendu. Ensuite, le Messie premier l'Islam ajoute « La tawhid, l'unicité de Dieu, ne signifie point proclamer verbalement « La ilaha illallah » quand on dissimule au fond du cœur des centaines d'idoles. Quiconque vénère ses plans, ses desseins malveillants, ses ruses, son ego, comme il aurait dû vénérer Dieu, quiconque se fie à un autre comme il aurait dû se fier à Dieu l'unique, eh bien celui-là est un idolâtre aux yeux de Dieu. » Voilà l'explication du hadith cité plus haut. Les idoles ne sont pas uniquement faites d'or, d'argent, de cuivre ou de pierre. Toute chose, toute parole, toute action vénérée d'une manière qui sied uniquement à Allah le Tout-Puissant est une idole aux yeux d'Allah. Ainsi donc, nous devons accomplir notre introspection de façon approfondie. Ceux qui jouissent des faveurs du califat doivent aussi payer la zakat et consentir à des sacrifices financiers. Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, relate que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré « Vous devez envier uniquement deux personnes. » La première personne est celle à qui Dieu a octroyé une fortune qu'elle dépense pour des causes justes. La deuxième personne est celle à qui Dieu a octroyé la sagesse qu'elle emploie pour arbitrer les litiges et pour enseigner aux autres. Hassan radhiyallahu anhu relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré protégez vos biens en payant la zakat et soignez vos malades avec de l'aumône. Ceux sur qui la zakat est imposable doivent payer la zakat. Comme l'a expliqué le Messie premier l'Islam, la zakat n'est pas obligatoire à tout le monde. Or, il encourage ceux pour qui la zakat n'est pas obligatoire de faire de l'aumône et de combler les besoins des nécessiteux. Ceci met en exergue l'importance de subvenir aux besoins des démunis. Et cela met en exergue aussi la nécessité de l'unité, car c'est sous l'égide du califat que l'on pourra dépenser à bon escient l'argent de la zakat et les autres biens. Le système de la Jamaat existe à cet effet. Elle dispose ou peut disposer de données fiables sur les démunis. Et les différentes Jamaat locales doivent d'ailleurs fournir ces détails à la Jamaat centrale après une enquête de terrain. L'on dispose généralement d'une liste de ces personnes. Le calife aussi reçoit des données à ce propos de divers endroits, envoyées par différents individus ou par les intéressés eux-mêmes. Et le calife autorise la Jamaat et la Nizam de fournir cette aide nécessaire à ces personnes. C'est pour cette raison que la Jamaat fournit cette aide à ces personnes dans la mesure de ces personnes en Afrique et ailleurs. Elle fournit des soins médicaux. Elle subvient à la scolarité de ces personnes ou offre de l'aide alimentaire. D'ailleurs, j'ai constaté que la majorité des Ahmadis viennent en aide à leurs frères démunis avec une grande compassion et ils consentent à des sacrifices financiers à cet égard. Cela d'ailleurs engendre de l'unité. Le Messie premier a lié l'accomplissement de la Salah au paiement de la Zakat en accord aux enseignements de Dieu l'exalté. Il explique que ceux qui accomplissent leur Salah en toute humilité se détournent tout naturellement des choses futiles. Et ces gens-là s'affranchissent de tout ce qui est impur en ce monde. Lorsqu'on accomplit la Salah en respectant ses exigences, l'on va se détourner de toute futilité et de toute chose impure en ce monde. L'amour pour ce monde d'ici-bas se refroidit et naît en leur cœur l'amour pour Dieu. La conséquence naturelle est qu'ils sont prompts à payer la zakat. Ils dépensent la voie d'Allah étant donné qu'ils évitent les dépenses inutiles et étant donné qu'ils se consacrent aussi à l'adoration de Dieu. S'ils sont nantis, ils dépensent dans la voie d'Allah. La conséquence de leur éloignement des futilités est qu'ils consentent à des sacrifices financiers et qu'ils sont attentifs aux besoins des autres. Quand l'amour de ce monde s'apaise, ils dépenseront certainement dans la voie d'Allah. Même s'ils sont riches comme Crésus, ils n'hésitent pas à dépenser leur fortune dans la voie de Dieu. Des milliers de gens ne paient pas la zakat, poussant à la ruine les couches démunies de leur nation. Et ils ne se soucient guère de ces personnes démunies, tandis qu'Allah enjoint que la zakat est imposable sur tout bien, à l'instar des bijoux. Mais cela ne concerne pas les joyaux ou d'autres ornements. Il incombe aux nantis de calculer leur zakat sur les capitaux qu'ils ont amassés pour un certain temps. S'ils ont amassé des biens pour un certain temps, ils doivent payer la zakat sur cette somme qui a été amassée ou qui a été économisée. Mais ils ne le font pas. Mais Allah déclare « Anil larwi boridoun ». Quand ils paieront la zakat, ils tenteront d'éviter ce qui est futile. Leurs solas seront empreintes d'humilité et ils éviteront par leur truchement toute chose futile. Ce faisant, ils consentiront aussi à des sacrifices financiers. Et ceux qui consentent à des sacrifices financiers se détournent de toute chose futile. Ainsi, il y a un lien entre ces différents concepts. Offrir la zakat est le résultat de s'être détourné des choses futiles, explique le Messie premier d'Islam. Ainsi, la Salah nous permet d'éviter les futilités et nous encourage à accomplir de bonnes œuvres. Et la Salah nous permet aussi d'éviter les dépenses inutiles et à dépenser dans la voie d'Allah en toute sincérité. Ainsi, le Messie promis d'Islam conclut que ces sacrifices pour la cause d'Allah permettent à l'homme d'éviter de nombreuses futilités. Ensuite, Allah conseille à ceux profitant des faveurs liées au califat de faire preuve d'une grande obéissance. Ubada bin Samit rapporte dans un hadith que nous avons promis sur la main du saint prophète Mohammed paix soit sur lui que nous écouterons et que nous obéirons en temps de bonheur comme en temps de difficulté, dans la joie comme dans la tristesse, et que nous ne nous soulèverons pas contre ceux qui sont en autorité sur nous, là où nous serons. Nous allons toujours nous adhérer à la vérité, nous allons dire toujours la vérité, et nous n'aurons pas peur des objections des détracteurs, quelle que soit leur personne, lorsqu'il sera question de la personne de Dieu. Le saint prophète, paix soit sur lui, n'avait pas donné ses ordres uniquement concernant sa personne, il avait aussi émis ces mêmes directives concernant le califat et la Nizam. Abu Huraira radhiyallahu anhu relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a enjoint « Écoutez et obéissez votre dirigeant dans ce que vous aimez et dans ce qui vous déplaît, dans la difficulté comme dans l'aisance, et même si on offre des privilèges à autrui à votre détriment. Vous devez en toute situation faire preuve d'obéissance à l'égard de vos dirigeants. Le Messie promet l'Islam explique davantage le sujet de l'obéissance. Obéissez à Allah, à son envoyé et ceux qui détiennent l'autorité. Si l'obéissance est sincère, elle engendrera une lumière dans le cœur. L'âme, quant à elle, en tirera un grand délice et sera illuminée. Les efforts ne sont pas aussi nécessaires que l'obéissance, mais l'obéissance doit être sincère. Mais pareille vertu est difficile à mettre en œuvre. L'obéissance exige l'immolation de ses désirs. Sinon, il n'y aura pas d'obéissance. Ces désirs de l'âme se transforment en idoles, même dans les cœurs de grands monothéistes. Ces désirs, s'ils existent, peuvent se transformer en idoles et il n'y aura plus d'obéissance. Voyez la quantité de faveurs qu'avaient reçues les compagnons du saint prophète Mohammed sur lui. Voyez à quel point ils s'étaient immolés dans leur obéissance envers lui. Aucun peuple ne sera considéré comme tel, et l'esprit de la communauté et de l'unité ne seront point insufflés en ses membres tant qu'ils ne sont pas obéissants. Si les différences d'opinion et la dissension perdurent, elles seront les précurseurs du déclin et de la décadence. S'il y aura ces différences d'opinion et la dissension, il n'y aura plus de progrès, il y aura la décadence et le déclin. Ces dissensions et ces luttes intestines ont été les facteurs, parmi tant d'autres, de la faiblesse et du déclin des musulmans. Mettez de côté vos divergences d'opinion et obéissez à celui qu'Allah vous ordonne d'obéir. Vous pourrez par la suite accomplir ce que vous désirez. La main d'Allah est sur la jamaat, sur la communauté, voilà le secret. Allah aime la tawhid. Et cette unité n'existera point s'il n'y a pas d'obéissance. À l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ses compagnons étaient de grands conseillers. Dieu les avait doués d'un sens aigu des principes de la politique. La gestion hors pair et efficace des affaires de l'État par Abu Bakr, par Omar et par les autres compagnons au cours de la califat respectif démontre qu'ils étaient d'habiles conseillers. Mais face à la décision du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ses compagnons ont toujours dédaigné leurs propres opinions et ils ont toujours dédaigné leur propre jugement face à la décision du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont accordé aucune importance à leur propre intelligence face à la décision du saint prophète. Toute parole du saint prophète devenait pour eux un ordre à mettre en exécution. Ils étaient si épris d'obéissance à l'égard du saint prophète qu'ils cherchaient des bénédictions dans l'eau restante avec laquelle il avait fait ses ablutions. Et les lèvres du saint prophète étaient pour eux source de bénédictions. S'il n'y avait pas de leur part pareille obéissance et soumission, et s'ils avaient privilégié leur opinion, il n'y aurait eu de la dissension et il n'aurait pas mérité d'aussi éminent statut. Selon moi, un seul argument suffirait pour mettre fin à tout conflit entre sunnites et chiites. Il n'y avait pas de dissension ou d'animosité entre ces différents compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, car leur progrès et leur succès prouvent qu'ils étaient tous unis et qu'il n'y avait pas une once d'hostilité en eux. Les ennemis, dans leur fourvoiement, affirment que l'islam s'est répandu par la force de l'épée. Selon moi, c'est un grand mensonge. Les veines de leur cœur regorgeaient de l'eau de l'obéissance, une eau qui a coulé en abondance. C'est grâce à cette soumission et cette unité qu'ils ont pu conquérir les cœurs des autres. Ils ont pris l'épée dans le seul but de se défendre. Et même s'ils n'avaient pas pris l'épée, ils auraient certainement conquis le monde uniquement avec leur langue. La parole qui vient du cœur touche sans nul doute le cœur. Ils ont accepté le cœur sincère, une vérité qui s'offrait à eux. Ils n'avaient point de leur part artifice ou ostentation. Leur sincérité était la raison de leur succès. Le véridique a recours à l'épée de sa véridicité. La lumière de la confiance en Allah resplendissait sur le visage du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Une lumière parée de la gloire et de la beauté divine. Une lumière qui attirait inéluctablement les cœurs vers lui par son envoûtement et sa puissance. Et les compagnons ont voué une obéissance exemplaire au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et dans leur obéissance, ils ont fait preuve d'une constance si prodigieuse que ceux qui les voyaient étaient instinctivement attirés vers eux. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de l'exemple et de l'unité des compagnons du saint prophète, car Dieu a lié cette jamaat qu'il a fondée par l'entremise du Messie promis à la jamaat du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. La communauté progresse grâce à l'exemple de pareilles personnes. Vous qui dites appartenir à la jamaat du Messie promis, et vous qui désirez rencontrer la jamaat des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, vous devez vous parer vous aussi des couleurs des compagnons du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous devez faire preuve d'une obéissance, d'une affection et d'une fraternité similaire. Vous devez en somme vous enrichir de toutes les qualités et des vertus des compagnons du saint prophète. Le Messie promis salam avait prodigué ses conseils à ses compagnons à l'époque. Or, si nous souhaitons pérenniser le progrès de la jamaat ainsi que le califat, nous allons devoir préserver avec constance ces exemples au sein de la jamaat. C'est là que nous jouirons du progrès constaté dans le passé. C'est là la norme à atteindre si nous souhaitons profiter des faveurs divines. Nous allons devoir rehausser le niveau de nos actes d'adoration et protéger nos salats et débarrasser entièrement nos paroles et nos œuvres du shirk et dépenser de nos biens pour la cause d'Allah et faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du califat. Et nous allons devoir préserver cette obéissance. C'est en respectant ces conditions que nous profiterons des faveurs du califat et des bénédictions divines qui y sont liées. Et c'est là que nous serons attachés au califat, ce califat qui va durer jusqu'au dernier jour. Et c'est là que nous pourrons ainsi lier nos générations futures au califat. Le Messie promis alayhi salam évoque la nécessité du califat et une bonne nouvelle à ce propos. Il dit, « Il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour dernier. Cependant, elle ne peut pas avoir lieu avant mon départ de ce monde. Et quand je serai parti, Dieu va manifester pour vous pour toujours cette deuxième manifestation. » C'est ainsi qu'il me l'avait promis dans l'ouvrage Brahin Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais bien vous. Il a déclaré, « Je ferai ceux qui ont cru en toi prévaloir jusqu'au jour du jugement sur ceux qui t'ont renié. » Il est donc nécessaire que vous voyiez le jour de mon départ pour que vienne cette époque promise qui va durer pour toujours. Notre Dieu est un Dieu vrai et fidèle. Il tient ses promesses et il vous fera voir tout ce qu'il vous a promis. Quoique ces jours soient les derniers de ce monde et que beaucoup sont les afflictions qui doivent le visiter, il est nécessaire qu'il se conserve jusqu'à l'accomplissement de ses prophéties. Je suis venu comme la puissance de Dieu sur terre et je suis une personnification de la puissance divine. Et après moi, d'autres viendront qui seront la manifestation de sa deuxième puissance. Allah nous a accordé cette faveur qu'est le califat. Et depuis les 110 dernières années, nous sommes en train de voir les faveurs divines ainsi que l'accomplissement des promesses faites au Messie promis alayhi salam. Qu'Allah permette à tous ceux qui ont prêté allégeance au Messie promis alayhi salam de respecter les injonctions divines et de profiter pour toujours des bénédictions du califat. La semaine dernière, je vous avais demandé de prier pour le Pakistan. Je demande aux Pakistanais en particulier de prier en ce sens. Ils doivent accomplir avec plus d'ardeur leur swala, leur nawafil et leur dhikr. Qu'Allah nous en accorde à tous la possibilité.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ